sport et malbouffe. C'est ainsi qu'on pourrait titrer cette entrevue, parce qu'il y a quelque chose d'incohérent. Il faut être en santé, être en forme, faire de l'exercice, voir le sport professionnel. Oh, attention, quand on arrive au sport professionnel, ben c'est toute une entreprise, du commercial, des publicités. On était à même de le voir. Énormément de publicités de malbouffe pour ce qui est de la santé. On l'a vu, je pense que c'est incohérent avec des messages de prévention. Et on va en parler justement avec... quelqu'un dont c'est la responsabilité, le travail et voire même l'engagement, le docteur Martin Junot, qui est cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour, docteur Junot.
Bonjour, monsieur Morin.
Docteur Junot, on vous a entendu sur toutes les tribunes et à plusieurs reprises dire, écoutez, il faut faire attention, il faut faire de la prévention parce qu'il y a une plaie qui nous attend tous. C'est soit les maladies cardiovasculaires et le diabète, etc., etc., dû à ce phénomène de malbouffe. On en a eu ad nauseam de la malbouffe là, durant la période des finales au hockey.
Oui, exactement. Écoutez, ça fait des années, évidemment, que dans les milieux de prévention là, et de santé, on dénonce, évidemment, le marketing, la publicité là, très, très omniprésente pour la malbouffe. Des gens ont déjà calculé, là, une université américaine bien connue, que c'est à peu près 1000 pour un. Un dollar versus 1000 $ de dépensé pour la malbouffe versus les campagnes de promotion de santé que les gouvernements font aux États-Unis. Puis c'est la même chose au Canada. Donc, c'est David contre Goliath. Et puis, comme vous dites, c'est le sport, ça devrait être associé à la santé, puis au lieu de ça, ben c'est la malbouffe omniprésente. Vous parlez du sport professionnel, mais les Olympiques, je dirais, c'est quasiment pire, avec Coke et McDo, qui sont omniprésents. J'en ai déjà parlé à des responsables du CIO locaux, c'est-à-dire canadiens, puis ça les intéresse même pas d'en discuter. Là. C'est vraiment l'argent, uniquement l'argent. Alors, tant qu'on va tolérer ça dans nos sociétés, ben il faut pas s'étonner qu'on aille, par exemple, au Québec, 4 millions d'individus en surpoids ou obèses, 800 à 900 000 diabétiques. Quand vous êtes diabétique de type 2, ben 8 ans après, vous avez une maladie cardiaque. C'est pour ça que là, on voit une recrudescence de l'infarctus du myocarde chez les jeunes de 30 à 55 ans. Je vous dirais que c'est un peu décourageant. Moi, je suis assez tard dans ma pratique. Là, je vais quitter un jour. En tout cas, c'est ce que j'annonce à mes jeunes collègues. Je vais laisser la place. Mais c'est un peu décourageant de voir le peu de progrès, en fait. Je dirais même ça se détériore.
Quand on regarde la façon de faire, c'est qu'on trouve que... ça me fait penser à ces poissons qui se collent sur le ventre du requin pour être capable de faire le voyage gratuitement. C'est que la publicité s'accole à des choses qui attirent la population. Donc, ils veulent avoir une couverture importante, mais dans des secteurs qui sont incohérents ou incompatibles avec ce qui se passe comme manifestation ou comme présentation sportive. C'est grave de permettre ça, à mon point de vue.
Oui, puis regardez ce qu'on a fait avec le tabac. Je pense que comme société, on a fait un très bon choix dans les années 90. Le gouvernement fédéral a interdit les commandites par les compagnies de tabac d'événements sportifs, d'événements artistiques. Rappelez-vous le Grand Prix Players, le Stade Jarry s'appelait le Stade du Maurier, etc. Les feux d'artifice Benson et Nedges. Quand le fédéral a fait ça, je m'en souviens, j'étais aux premières loges, là. Tous les acteurs du milieu criaient au meurtre que ça allait tuer les événements. C'est pas ça qui est arrivé. D'autres compagnies sont arrivées puis ont pris la relève, Air Canada et compagnie. Et pourquoi on n'appliquerait pas la même chose à l'alimentation? Dire, écoutez, les événements sportifs, les grands événements comme ça, les Olympiques, bon, c'est international, les Olympiques, mais ça devrait pas être rempli d'annonces pour de la malbouffe. Mais bon, il n'y a pas de volonté politique, c'est clair.
Il n'y a pas de volonté politique que vous attribuez à quoi? Parce qu'ils l'ont eu pour la cigarette, ils ne l'auraient pas, je ne sais pas, moi, pour les boissons sucrées, ou ils l'auraient pas pour une malbouffe trop grasse ou trop salée, trop de sodium.
Absolument. Le tabac, c'est un ennemi facile, entre guillemets. Là. C'est bon, c'est mauvais à tout point de vue, il n'y a même pas de doute. Dès que vous tombez dans l'alimentation, vous avez l'industrie qui réplique en disant « ben c'est pas si pire que ça, il y a des études contradictoires », ils sèment le doute. Et les lobbies sont beaucoup plus puissants et omniprésents. Je dis pas que les lobbies du tabac étaient pas puissants, mais ils n'étaient plus occupés. écouté parce que c'était vraiment le diable. C'est pas du tout le cas pour Coke et McDo, c'est pas le diable. Écoutez, c'est des industries légales, ils ont le droit d'exister. Alors, c'est pas du tout la même chose. Et prenez les boissons sucrées, ça fait des années que le gouvernement y songe, mais il recule toujours à dernière minute parce que c'est pas populaire parmi les caucus de députés, qui reçoivent beaucoup de pression de la part de lobbyistes. Par contre, les Québécois, les sondages le montrent, 70% environ seraient pour la taxation des boissons sucrées en autant que l'argent est redistribué en
dans prévention. Le réseau de santé ou en prévention, c'est ça.
Puis c'est des mesures qui coûtent rien, au contraire, qui rapportent de l'argent. Du zonage autour des écoles pour pas qu'il y ait toutes les chaînes de malbouffe autour des écoles secondaires et cégep aussi, ça coûte rien, ça. Il y a plein de mesures qu'on peut faire. Parce que l'éducation, les campagnes de promotion, ça, c'est limite. On l'a vu pour le tabac. Le tabac a baissé quand il y a eu de la taxation puis qu'il y a eu des interdictions de fumer dans les endroits publics. Bon, c'est sûr qu'on peut pas faire ça avec la malbouffe, mais au moins, on peut limiter, encadrer et prendre des mesures de société.
Quand vous passez votre carrière à soigner des gens atteints de maladies cardiovasculaires, ou encore des troubles qui sont liés, évidemment, à la consommation ou aux habitudes de vie. Est-ce qu'on en arrive à dire nous n'avons pas une société en santé? Parce qu'en même temps, on est là depuis 2 ans dans un mouvement collectif de vouloir préserver la santé des gens, qui est la COVID, là.
Écoutez, la COVID a été une bonne démonstration de notre vulnérabilité comme société sur le plan métabolique, parce que regardez qui le virus tue, le COVID-19. On oublie l'âge, là, qui est le facteur principal, ça c'est clair. Mais après ça, c'est diabète, hypertension, obésité.
Y a des c'est gens ces gens-là qui sont plus à risque.
Oui, et puis Boris Johnson, en Angleterre, a été très frappé par ça quand ses experts lui ont parlé de ça. Puis là, lui, il a annoncé des mesures, une série de mesures. Là, il travaille sur une série de mesures beaucoup plus sévères là, pour contrer l'obésité, le diabète, etc., depuis qu'il a réalisé ça. Alors, je dirais que la pandémie a mis en lumière notre vulnérabilité. Mais vous dites, notre société, est-ce qu'elle est en santé? Des Québécois qui ont, ou des Canadiens, ou des Américains, mais disons les Québécois qui ont toutes les bonnes habitudes de vie. 30 minutes de marche par jour ou équivalent, manger de type nos 5 portions de fruits et légumes, ne pas fumer, garder un poids santé, consommer l'alcool très modérément, ben c'est 3-4% de la population.
Est-ce que dans le fond, le phénomène de la prévention, c'est pas quelque chose qu'on dirait que les gens perçoivent comme un message virtuel? Oui, je comprends la prévention. Ouais. Mais la réalité, quand vous donnez des exemples comme ce que vous venez de nous donner en rapport avec justement l'événement pandémique, que les gens les plus touchés sont les gens qui ont été les moins probablement prudents ou dont le problème est une maladie cardiovasculaire, est un problème de diabète, etc. Il y a quelque chose là-dedans qui peut être porteur d'espoir en se disant, ben prenez-en conscience, ma foi.
Oui, écoutez, plusieurs l'ont souligné, là, je suis pas le seul, là, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, je l'ai pas vu beaucoup dans les médias traditionnels, mais c'est clair que partout dans le monde, les gens dans mon domaine ont beaucoup souligné ça, à quel point la pandémie avait touché les gens qui étaient, disons, malades métaboliquement, là, c'est-à-dire obèses et diabétiques et hypertendus, et souvent les trois, hein, les trois
oui,
souvent ensemble.
Peuvent aller ensemble.
Et puis, ça montre que, coudonc, qu'est-ce que ça prend pour se prendre en main?
Docteur Junot, c'est tout le temps que l'on a, mais je prends les derniers 30 secondes pour vous dire, parce que j'apprends que vous voulez vous retirer un peu, de votre sens de l'engagement pour la santé publique de façon générale et la santé des individus, c'est une mission que vous avez remplie au cours de votre carrière et pour laquelle on doit lever notre chapeau. Merci beaucoup de cet engagement-là.
Ah ben, c'est moi qui vous remercie.
Au revoir, monsieur.
Au revoir.